Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Est-ce que tu veux bien te représenter pour les personnes qui nous rejoignent, s'il te plaît?
Je regarde un peu.
Tu peux regarder la caméra qui s'adresse à toi, qui est juste là. Okay, ou regardez-moi, ça te fait okay, plus confiance. Ou Sarah, comme okay. Tu préfères.
C'est comme tu
veux. Le même double.
Ok. Pour me présenter, moi c'est Elia Pradel et je suis la fondatrice d'une marque qui s'appelle Anis et Bijoux et qui fait de l'upcycling de bijoux. En gros, je l'ai lancée en mars 2020, 2 semaines avant le confinement, coup de bol. L'idée c'est de... Et l'idée c'est de retravailler des anciens bijoux. Donc en fait, on va chiner des anciens bijoux partout en France, en Europe. Et on va valoriser les savoir-faire qui sont un peu oubliés, souvent des maisons de bijouterie qui ont fermé aujourd'hui. Et on va se concentrer sur des matériaux précieux comme l'argent massif, du plaqué or ancien qui s'apparente à ce qu'on appelle l'or 9 carats aujourd'hui, des choses qui n'existaient pas à l'époque, l'or 9 carats, et de l'or 24 carats et des pierres fines parfois et des pierres semi-précieuses. Voilà. Et en gros, l'idée, c'est de repenser les pièces, de créer une certaine structure rythmique avec ces pièces et de faire de nouvelles créations uniques. En lien, j'aime bien moi mettre l'aspect upcycling, mélange des matières, mélange des formes et des genres. J'aime bien construire ces structures rythmiques en écho à ma créolité et à mon identité créole. Et j'aime bien faire ce parallèle, en tout cas aller plus loin que juste l'upcycling comme l'assemblage d'éléments, mais aussi poser des questions un peu d'identité autour de ça.
D'accord. Ouais, c'est hyper intéressant. Et le fait que tu parles de rythmique, est-ce que tu accordes une musicalité aux bijoux?
Ouais, complètement. En fait, j'ai fait beaucoup de danse quand j'étais petite. Enfin, pas si petite, hein, mais quand j'étais...
Hier.
Je continue à danser énormément.
Non, j'ai le micro.
Ouais.
Pour qu'on t'entende
mieux.
On
n'entend pas très bien. Ok. Yes. J'ai fait beaucoup de danse quand j'étais plus jeune et je faisais à peu près 9 heures de danse à un moment.
Et quel genre de danse?
J'ai fait beaucoup de danse différentes. J'ai commencé par le classique, comme beaucoup de petites filles. Et ensuite, j'ai fait du jazz et après, j'ai grandi en Guadeloupe. Je suis née, j'ai grandi en Guadeloupe. Donc, j'ai fait un style que ma professeure de danse a inventé, qu'on appelle la technica. Elle est venue apporter une technicité sur le groca. Je ne sais pas si vous connaissez le groca.
Non. Pas du tout. Bien sûr que oui. Comment tu décris le groca?
Dis-moi, c'est quoi?
Et en gros, le groca, je ne sais pas si ça existe, ça s'appelle pareil dans les autres îles françaises, francophones. Mais en tout cas, en Guadeloupe, le groca, c'est... C'est une musique qui se joue donc avec des tambours, donc les tambours qui sont venus d'Afrique à la base. Et en fait, autour de ça, il y a 7 rythmes, ou 6, je ne sais plus très bien, et qui ont chacun, c'est pour ça que je parle de musicalité en fait, des pièces et des éléments, parce que chaque rythme a ce qu'on appelle une reprise, comme un refrain. Donc on a une façon de taper sur le ka qui est différente, on a des marqueurs qui sont différents, et on a une façon de le danser aussi qui est différente. Et ça, j'ai fait ça pendant de longues années. Et pourquoi je parlais de ça?
Parce qu'on parlait de la musique
des bijoux.
Et donc oui, j'aime bien poétiser les pièces de cette façon. C'est-à-dire que c'est vrai que quand je crée, c'est vrai que quand on voit la pièce, on se dit c'est un bijou, mais j'aime bien moi penser les pièces un peu au-delà de ça, quoi.
D'accord.
Ouais, voilà.
Et justement, tu parlais de ton enfance, tu rêvais de faire quoi comme métier quand tu étais enfant?
Qu'est-ce que je rêvais de faire?
Qu'est-ce que danseuse je rêvais de faire? Ou créatrice de bijoux?
Non,
ou...
pas du tout.
Astronaute.
Alors, qu'est-ce que je rêvais de faire? J'ai rêvé de faire. Non, pas du tout. Les maquillages, c'était jamais un truc scientifique, quand même. Mais je rêvais de faire décoratrice d'intérieur. Ça, c'était mon. Quand j'étais notamment en terminale, et je me suis dit, bah non, tu vas pas faire. Parce que la petite anecdote, c'est que j'ai changé mes vœux d'admission post-bac la veille d'admission post-bac. Mes parents sont pas du tout dans l'univers créatif, et je m'étais dit, bah non, tu vas pas aller en mise à niveau en art appliqué, va, parce que j'ai un parcours assez. Comment dire? Je suis autodidacte sur la partie bijoux. Donc je me suis dit, tu vas en prépa, tu fais une école de commerce, et enfin, tu vas dans un parcours. Comme une bonne élève, quand t'es bonne élève, on te dit va faire une prépa, donc c'est ce que j'ai fait. Mais en soi, la veille d'admission post-bac, je voulais faire une mise à niveau en art appliqué. Donc la boucle est bouquée, on revient toujours à ses premiers amours.
Et ouais,
Excuse-moi. Ouais, donc comment t'as commencé à leur faire les bijoux ouais.
Ben en fait, pareil, on revient toujours à ses premiers amours, c'est que j'ai toujours été très manuelle.
D'accord.
Donc à 13-14 ans, je créais déjà des bijoux, je customisais tous mes vêtements.
Voilà, ouais.
J'ai par exemple créé ma robe de première communion, enfin de première communion, je l'ai dessinée parce que je voulais pas de robe du magasin, enfin... J'ai toujours été très manuelle et très créative et j'avais même lancé un mini business à l'époque, j'appelais ça les bijoux d'Elia.
J'adore.
Où je faisais des bijoux en cristaux de Swarovski. Donc, ouais. Et ma mère m'a envoyé des photos récemment, donc c'était ce qui est marrant, c'est que ça revient un peu à la mode, ces formes assez enfantines, donc des fleurs, des papillons en cristaux de Swarovski. Et j'avais cette idée, j'avais une machine à coudre, etc. Mais je m'étais dit, bon, tu vas pas faire ça. Et donc, ça m'est resté. J'ai eu un premier boulot. Et pendant 3 ans, donc, j'ai été salariée d'une boîte qui était plutôt autour de l'entrepreneuriat, l'innovation. Mais je prenais des cours de bijouterie de temps en temps à Paris.
Ouais.
Et même quand j'ai quitté mon ancien boulot, ça a été mon cadeau de départ. On m'a offert 10 cours de bijouterie auprès d'une bijoutière parisienne.
C'est top.
C'est Et qu'est-ce qui a levé l'autocensure qui faisait que tu t'empêchais de te lancer dans les bijoux?
Il y a l'histoire
officielle.
Il y a l'histoire storytelling et l'histoire pour le storytelling. Je dirais ce qui m'a vraiment donné envie de me lancer, c'est que j'ai quitté mon ancienne boîte et je me suis dit que j'avais, enfin, si je le faisais pas maintenant, j'allais encore réenchaîner avec un autre CDI ou me remettre dans un truc. Et je me suis dit, non, en fait, j'avais fait une vente à Noël où ça s'était très bien passé. Et je me suis dit, franchement, c'est l'occasion de le faire. T'as pas grand-chose à perdre. Je suis pas du milieu de la mode. Enfin, j'avais pas grand-chose à perdre, pas de gosse, rien du tout. Donc, je me suis dit, tente, amuse-toi. Et c'est vraiment comme ça que j'ai lancé. Voilà. Mais l'histoire moins officieuse, c'est que j'ai quand même tenté de chercher un CDI, mais en fait, quand on n'est pas motivé, quand on a le cœur n'y est pas, on échoue en fait.
Ouais.
Et donc, j'ai passé quelques entretiens, j'ai dû passer entre 5 et 10 entretiens après mon ancien boulot. Et c'est au bout de quelques entretiens où j'y allais, je préparais rien du tout, j'avais aucune motivation, c'est là que je me suis dit, fais un truc qui te plaît vraiment et vas-y.
Mais à te le dire, c'est hyper important de pas glamouriser le truc et d'être honnête, quoi. Donc, merci beaucoup, Elia.
Voilà.
Et justement, comment est-ce que tu as décidé de partir de bijoux déjà existants, de matières déjà existantes? Pourquoi upcycler?
Donc, quand j'ai fait cette vente de Noël, je faisais plutôt de la fantaisie. Donc, c'était des bijoux neufs. Ça s'est très bien vendu, ça plaisait aux gens, mais moi j'avais un problème de conscience à les vendre parce que justement ça manquait de matière, c'était un peu vide, c'était justement juste des bijoux, des beaux bijoux. Je discute avec une amie et je prends en voie de réflexion, notamment je rentre en Guadeloupe, etc. Et cette amie me dit, mais Elia, pourquoi tu demanderais pas, t'adores la brocante, t'adores aller chiner, tu déniches tout le temps des super beaux trucs en brocante. Moi ça faisait déjà quelques années que je m'habillais en seconde main, je faisais attention à comment je m'habillais, ça fait très longtemps que je m'habille en seconde main en fait. Et donc elle m'a dit, mais Elia, t'adores ça, pourquoi tu demanderais pas à des particuliers de te filer leurs anciens bijoux pour que tu les retravailles? Et donc c'est comme ça que c'est né. Et pour la petite histoire et la petite anecdote que j'aime bien raconter, c'est que donc j'ai lancé 2 semaines avant le confinement, donc j'avais un petit stock, mais après on est resté quand même assez longtemps confiné. J'habitais près des buts de Chaumont et il y a un fort réseau associatif là-bas. Et donc j'avais mis en place un système de troc, c'était vraiment tout au début de la marque, un système de troc entre les habitants du 19e près de chez moi. Et moi et avec mon copain, on faisait un échange de gros bijoux, donc j'avais des gros lots de bijoux et de Accra et Tiponche.
Pas mal, hein, pas mal. Bon deal, bon deal. Et bien d'ailleurs, on attend le Tiponche. Anthony,
on va pas boire à l'antenne. Respectons la loi.
Jamais.
C'est faux, il n'y a pas d'alcool sur ce plateau. Nous sommes naturellement pétillants.
Exactement.
Comment est-ce que tu décrirais ton processus créatif? Tout à l'heure, on parlait de rythmique. Tu parlais aussi d'Accra, de Tiponche, de Kouoka. À quel point est-ce que ton identité inspire aussi ta création?
Déjà, donc j'aime bien cette idée de penser les choses de façon rythmique. J'aime bien aussi, dans les créations, dans l'ADN, j'aime bien justement penser le déstructurer, l'assemblage, qu'elle soit visible. Mais qu'en même temps, je veux absolument pas que les gens, enfin, ça aurait pu être un parti pris, mais là c'est pas le cas, que les gens se disent, je veux que les gens, comment dire, franchissent la barrière de se dire, bah, c'est un bijou de seconde main. Donc je veux que quand la personne voit la pièce, que ça séduise un public de non averti, qui est pas du tout sensible à la seconde main et que la pièce semble neuve. Donc voilà, rendre visible la déconstruction. Justement, j'aime bien en parler justement de ce processus de déconstruction identitaire, etc. Donc rendre visible cette déconstruction, mais en faire quand même une pièce qui paraisse neuve. Voilà.
Et quand tu parles de déconstruction, c'est au sens propre comme au sens figuré, parce que tu prends des bijoux déjà existants, tu vas prendre une canne, tu vas la déconstruire, enlever les maillons.
Ouais, complètement. C'est vraiment ça, c'est exactement ce qui se passe. Donc c'est vraiment, par exemple, un bijou final peut être la recomposition de 5-6 pièces existantes. Et j'aime bien mettre ce parallèle en place, déconstruire le bijou, casser les mailles, recomposer les mailles et créer une nouvelle histoire et permettre aussi à la personne qui achète cette nouvelle pièce de s'approprier la pièce, de construire une nouvelle identité avec et d'avoir un peu plus de pouvoir justement pour tout en fait.
Okay. Et j'ai une question. Quelles sont les pièces les plus compliquées à retravailler, enfin à déconstruire?
C'est complexe. Les pierres peut-être? Les pierres.
Pierre.
Ouais.
Okay. Parce,
parce que
dessertir.
J'aime beaucoup travailler les pierres maintenant. Ouais, il faut les dessertir et ressertir. Et souvent, ce qui est un peu embêtant, c'est que le travail de réparation coûte plus cher que le travail pierre, de création, tu vois. Ouais.
Ok, ouais. Ouais. Mm-hmm.
Et par exemple, Elia, là, sur toi, c'est des bijoux.
Ça, c'est des bijoux, mais pas encore retransformés.
Pas encore, c'est ça, ouais.
Et il y a aussi ça dans
la... quand ils sont transformés ou pas? Est-ce que moi, je peux le voir à l'œil comme ça?
Si,
je peux te dire, tiens, ton bijou est transformé.
Ouais, complètement. Ouais, sur celui-là, par exemple, je vais certainement faire un travail de sertissage.
Tu veux le montrer à ce niveau-là, s'il te plaît?
Mais là, on voit pas bien la
petite panique. Je sais pas, je vais essayer de zoomer. Ah non, en fait, elle peut-être le voir à trop court. Parce que je crois que je ne
sais pas. Tu parles de l'affaire, c'est là.
Ouais, celle-là.
Ouais.
La verte.
Ouais, en fait, c'est vrai que tu mets ta main là, mais ça va être un peu compliqué.
Je suis pas très grande.
Voilà, donc je sais pas si on
voit. Et là, on va certainement faire un travail donc, de sertissage, ouais. Avec des pierres et des cristaux aussi qui sont de seconde main.
Okay.
Sur les boucles d'oreilles, il y a tout un travail qu'on est en train d'explorer autour de la couleur, de l'émaillage aussi. Non, c'est certainement ce qu'on va faire dessus. Voilà. Et aussi, ça, dans l'ADN de la marque, c'est que j'aime bien et on aime bien chiner des mailles singulières et des formes singulières. Donc, c'est-à-dire, on chine pas juste des chaînes, etc. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment aussi de chiner des éléments qui ont déjà du caractère.
D'accord.
Voilà.
Et tu l'as dit un peu plus tôt, tu es autodidacte.
Ouais.
Comment est-ce que tu apprends les techniques de joaillerie?
Ouais. Alors, je ne me prétends pas bijoutière ni joaillère, parce que ça, il faut un CAP pour le faire et il faut du temps. Et c'est très dur, vraiment, c'est compliqué, la bijouterie et la joaillerie. Donc, j'ai pris quelques cours, j'ai des notions de base. Aujourd'hui, je continue à me former, justement grâce aux ateliers de Paris, parce qu'on est plusieurs créateurs, artisans, designers, artistes aux ateliers de Paris. Et donc, j'ai la chance d'avoir des collègues d'atelier qui ont fait 6 ans de boules, donc c'est des vraies joaillères. Et donc, on fait un peu un échange de bons procédés d'ailleurs avec elles. Donc, elles me forment un peu sur les techniques de bijouterie. Et aujourd'hui, je sous-traite les parties les plus techniques des pièces. Donc, par exemple, ce qui est sertissage, aujourd'hui, je le sous-traite.
Et c'est quand même étonnant parce que là, d'après ce que j'entends, donc dans le domaine de la joaillerie, il faut avoir le diplôme pour vraiment se dire qu'on est, qu'on se considère joaillerie, etc., bijoux.
Il me semble, je suis pas sûre.
Parce que, par exemple, bah, dans le vêtement, au niveau de la couture, etc., quand les gens commencent à se mettre dans la couture, il n'y a pas forcément besoin de passer par un CAP ou un bac professionnel métier de la mode et du vêtement pour se dire que se considérer
comme...
Non,
peut-être que tu peux être autodidacte, mais je pense que j'assimilais ça au chef restaurateur. Mmh. Tu peux être chef autodidacte, mais souvent, c'est très fortement... Enfin non, je sais
oui,
pas, mais c'est un peu pareil.
C'est ça.
Pour ouvrir un restaurant, t'as besoin d'avoir le diplôme, quoi.
Oui, mais pour les bijoux, la joaillerie, etc.
Tu peux te lancer sans... Mais c'est et tu peux, il y a beaucoup de joaillères autodidactes, hein, mais
Et c'est important aussi de rappeler l'importance du savoir-faire et de la formation, quoi. C'est vraiment pas un métier, enfin on peut essayer d'improviser, mais c'est un métier extrêmement technique et, ouais. ça, et ouais. c'est proche de l'artisanat d'art aussi ouais. pour certaines disciplines, enfin la joaillerie, la haute joaillerie, c'est,
oui, c'est
extrêmement,
de
extrêmement technique
ouais, complètement.
Et après t'as employé le terme de couture, Sarah, je le trouve intéressant parce que justement on peut dire qu'on fait de la couture, mais la haute couture c'est une appellation qui est protégée par exemple, et ça on l'oublie souvent. Il y a énormément de critères extrêmement exigeants pour avoir le droit à l'appellation haute couture qui est protégée, qui n'existe que à Paris. Et il faut avoir un atelier flou, un atelier tailleur, avoir un certain nombre de collections et de looks de passage par collection. Il faut avoir un certain nombre de petites mains et tout. Enfin, c'est très exigeant, on ne s'improvise pas créateur de haute couture.
Et Chanel d'ailleurs rend hommage à tous ces métiers dans son défilé, les métiers d'art.
Oui,
totalement.
Là, dernièrement et tout, oui.
Avec une fois par an.
Avec le maire, etc.
Donc, une première fois, après qui se déplace, mais c'est toujours ça rend hommage à la broderie, enfin tous les tous les spécialités marié, qu'on peut avoir, voilà, le sage.
Il y a justement une expo là au 19M sur ça. Sur le...
tu vas en bas, enfin on va en parler tout de suite justement. Les... Non, pas du tout. J'allais dire les ateliers d'art de Chanel du coup sont mis en lumière à travers le défilé des métiers d'art de Chanel et donc c'est des artisanats d'art comme la plumasserie, la broderie, etc. La joaillerie, la haute joaillerie, je crois que c'est Goussens aussi qui s'occupe des bijoux fantasy chez Chanel et justement on parlait de Chanel qui met aussi en avant ses ateliers artisanat d'art, pardon, à travers un... qui sont rassemblés dans un même bâtiment qui s'appelle le 19M. D'ailleurs, toi, ce week-end, il y a là-bas, tu peux nous raconter
Ouais, en gros, oui, d'ailleurs, il y a une expo en ce moment. Donc, si vous êtes à Paris, il y a une exposition décoration des métiers d'art. Justement, où il y a des choses magnifiques, comme d'habitude. Et avec le 19M, on a une collaboration. Justement, c'est là qu'on voit tout... Ben, le, comment dire, comment quand même ça regroupe en gros ce que tu disais sur la haute couture, etc. Là par exemple on a une collaboration, on organise des ateliers d'upcycling donc avec des particuliers à partir des invendus des fins de stock des maisons, des métiers d'art de Chanel, et là en l'occurrence une maison qui s'appelle Des Rues, qui s'occupe de l'accessoire notamment, etc. Et on le voit dans les matières premières qu'on a à disposition, enfin ce sont vraiment des beaux éléments et des belles matières, donc je te dis que même dans les invendus ils ont des choses quand même magnifiques. Ouais. Et pourquoi on parlait de ça? Ah oui, et ça continue le week-end prochain.
Ok, d'accord. Donc voilà, on peut à nouveau te voir ce week-end chez Chanel.
C'est complet.
Au 19M. Ah, donc on ne peut pas y aller.
À la fin.
Voilà.
Tout ça pour
dire que non. Vous ne pourrez pas y assister.
Ouais, c'est ça.
Nous sommes désolés.
À l'année prochaine.
Venez, c'est super. Tant qu'il n'y a plus de place.
Mais vous pouvez voir quand même l'expo qui est au 19M. Ouais. Et du coup,
et juste venir dans le lieu parce que c'est vrai que le lieu est magnifique. Enfin, on s'y sent bien.
Ouais, c'est incroyable. Donc, c'est entre Paris et Aubervilliers, c'est deux places Kanderberg dans le 19e. Voilà, et c'est un édifice qui est incroyable. Moi, il me semble que. Enfin, j'avais interviewé l'architecte, il avait fait.
T'avais interviewé l'architecte, ah ouais?
Et bien, en fait, en gros, l'édifice, c'est en forme de. Je voulais pas faire cette là.
Je crois qu'on a même
un
petit mal.
Oui, il y a même.
Ok. Je suis désolée. Mon père me traite, mais il dit des choses qui me trompent. Je voulais dire qu'il avait fait En fait, l'édifice ressemblait à des fils comme du tweed pour montrer le tissage.
Ah ouais?
Le passé, le contemporain, etc. Bref, il lui demandait très bien, je suis tombée dans son storytelling.
Oui.
Voilà.
Mais on a envie d'y tomber.
Oui, je sais. Donc, voilà. Non, mais c'est hyper original, enfin, c'est plein de fils en fait.
Bah, je regarderai le bâtiment autrement, j'avais pas cette info. Voilà. Ok.
C'est vraiment magnifique et c'est immense et c'est incroyable de se dire tous les ateliers sont réunis au même endroit. Quoi.
Ouais.
Enfin, avant c'était éclaté dans tout Paris, en banlieue. Ouais. Voilà, vive le Grand Paris. Et ce que je voulais te demander aussi, Elia, c'est bah, en fait comment est-ce que. Enfin, tu te démarques aussi par tes visuels, l'esthétique que tu apportes avec ta marque. C'est hyper rafraîchissant de voir ça aussi. Comment est-ce que tu décrirais ton esthétique, tes campagnes visuelles pour ANC?
Non, je fais pas ce truc de. Pardon, excusez-moi pour ceux qui nous regardent. Qu'est-ce que je disais? Oui, en fait, ça c'est assez marrant parce que c'est plutôt en discutant avec les gens que on me l'a fait remarquer, alors que pour moi c'est quelque chose de naturel. C'est-à-dire c'est naturel. Enfin, c'est pour ça que j'aime pas. Bon, après faut bien nommer les choses, mais j'aime pas forcément qu'on me dise oui, t'es une marque inclusive, t'es une marque non-genrée, etc. Parce que en fait pour moi c'était juste naturel de me dire ben, je crée une pièce, c'est normal en fait qu'il y ait tout type de corps qui les porte. C'est normal en fait qu'il puisse y avoir, ben, si t'es un homme, une femme, non-binaire, enfin, quel que soit ce que t'es, si la pièce te plaît, y a, on s'en fout, en fait, que tu sois un homme, une femme, etc.
Tu peux te l'approprier comme tu veux.
Voilà. Et donc, j'ai vraiment créé les pièces, et je crée encore les pièces en disant ça et en me disant ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crée en disant, bah, si la pièce te plaît, que tu sois un homme ou une femme, tu peux te l'approprier, et voilà.
Il y a un truc qui me fascine aussi, c'est que...
Je crois et
que
c'est la... vrai que oui, j'aime bien mettre en avant ces questions d'identité, etc. Évidemment, mais c'est vrai que c'est naturel. Donc, je veux pas en faire un étendard. Parce qu'en fait, ça devrait être normal.
Mais voilà. C'est pas ton argument de vente.
Non.
Et c'est ça qui rend ça encore plus intéressant, en fait. Mais je crois que c'est l'une des premières fois aussi qu'il y a une marque de bijoux qui présentait ses créations sur autre chose que des personnes filiformes, tu vois. Et je me dis, mais en fait, c'est vrai, il n'y a pas de taille pour un bijou. Enfin, bah c'est non. Absurde.
Enfin, si, en soi, il y en a un.
Oui.
Pour les colliers.
Ouais.
Il y a des tailles.
Ouais.
Il y a aussi pour les bagues.
Pour les bagues aussi, ouais.
Pour les poignets. Tu n'es pas obligé d'avoir une taille standard à présenter quand tu fais ta campagne. Tu peux avoir un 44.
Mais c'est vrai que tu as raison. En fait, oui, c'est-à-dire que si tu... Il y a des bagues, ils n'iront pas plus loin. Enfin, si tu veux, tu vois, sur un bracelet, par exemple, on ne va pas te le construire pour toi. S'il n'existe pas, c'est ta S, M, large. Donc après, c'est vrai que je pense que c'est un peu... Au moins, c'est du sur-mesure, quoi.
Et ça, c'est l'avantage de la pièce unique. Et comme chaque pièce peut être adaptée, en fait, aux gens qui les portent. Donc souvent, on met à taille. Ça, c'est cool avec la pièce unique, quand même.
Et dans la pièce unique upcyclée, il y a un autre avantage qui compense un aspect hyper délétère dans l'industrie du bijou et de la joaillerie, c'est l'extraction de matières vierges, les métaux précieux, les pierres fines et les pierres précieuses. C'est extrêmement polluant. Est-ce que tu veux nous en parler?
On peut en parler, ouais.
J'aime bien. Ouais, parce qu'en plus, c'est important d'avoir des personnes qui sont calées sur ce sujet-là, parce que bah, moi, j'entends parler, mais vu que je ne m'y connais pas forcément dans le domaine, bah, des fois, j'ai peur d'écouter ou de dire des bêtises parce que c'est plus compliqué que ça.
Ouais.
Et des fois, il y a les polémiques quand il y en a autour de ça. J'ai du mal aussi à... en vif de les comprendre parce que bah, je ne connais rien en fait du domaine. Et c'est vrai, c'est quoi le...
En fait, on parle beaucoup du vêtement. Enfin, on connaît, hein, y a beaucoup de reportages sur le vêtement, etc. Et ben, évidemment, le bijou n'est pas en reste. Aujourd'hui, il y a une certaine réglementation pour tout ce qui est joaillerie. Mais quand on parle, par exemple, de fantaisie, donc tout ce qui est plaqué or, acier inoxydable, même l'argent, il y a peu aujourd'hui de labels, de réglementations. Enfin, il y a des, comment dire, certaines normes à respecter, mais en termes de traçabilité, d'impact écologique, d'impact humain, tout ce qui est extraction des pierres, des minéraux. Moi, quand j'ai découvert que pour fabriquer une bague en or basique, tu sais, une alliance, il te fallait 20 tonnes de cyanure, déverser 20 tonnes de cyanure, je me suis dit, ah ouais, j'ai bien fait de prendre des choses qui existent déjà pour les retravailler.
Ouais, c'est énorme.
Et aujourd'hui, je prétends même pas être parfaite parce que nous, par exemple, on achète des éléments neufs pour finaliser nos pièces, pour les anneaux, etc. Et là, j'avoue qu'il y a une certaine opacité. Je sais que c'est de l'argent. Par exemple, les apprêts, tout ce qui est apprêts, donc tout ce qui est mes fermoirs, mes anneaux pour lier mes éléments. Bon, aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé d'argent recyclé sur ça.
D'accord.
Donc, j'utilise de l'argent neuf.
Ok. Et justement, ça pose énormément de questions éthiques parce que qui extrait ces métaux, qui extrait l'or, qui extrait les pierres précieuses dans les mines, il me semble que c'est aussi parfois, ça dépend des pays, et on manque totalement de traçabilité, mais il arrive souvent, hélas, que ce soit des enfants aussi.
Ouais. C'est encore le cas, hein. Le diamant, c'est encadré. Au niveau du diamant, on a beaucoup de choses maintenant, beaucoup de réglementations, donc c'est cool. Mais par exemple, au niveau des pierres qu'on appelle fines, semi-précieuses, donc tout ce qui est au final ce que un peu le commun des mortels porte au quotidien, les améthystes, vous voyez les petites améthystes, aigues marines, etc. Ben, par exemple, les améthystes, ils sont beaucoup d'enfants.
Parce qu'il faut des petites mains pour rentrer dans le. Enfin, il faut avoir un petit gabarit pour rentrer dans les mines et des petites mains pour.
Ouais, enfin, je sais pas. Ouais. Donc, oui. Et quand tu vas dans, enfin quand tu te promènes chez des fournisseurs, moi ça m'est arrivé de me promener chez des fournisseurs neufs ou même dans des magasins. T'as des magasins qui vendent des pierres, des trucs à profusion en neuf et tu te dis mais d'où ça sort tout ça quoi, vraiment.
Ok.
Enfin, je disais pas non, ça mais... pour déprimer tout le monde. Mais non, en vrai, c'est la déception. Mais en vrai, c'est juste pour dire qu'il y a de très belles choses. Surtout qu'en plus, dans le savoir-faire, il y a, enfin, on avait vraiment des très belles choses à l'époque. Moi, aujourd'hui, je tombe vraiment amoureuse, quoi, de certains éléments que je peux chiner quand je vois des mailles qui sont hyper anciennes, le détail, la qualité. Vraiment, le truc, il est incassable tellement il est qualitatif. Ce qui n'existe pas aujourd'hui en plaqué or, par exemple.
Mm-hmm. Ouais, c'est clair. C'est pour ça qu'on parle de travail d'orfèvre. C'est que ça nécessite tellement de savoir-faire. Mm. Et c'est magnifique aussi de se dire que parfois, c'est des choses qu'on se transmet de génération en génération. Mm. Ça dépend des familles, évidemment. Mais je suis martiniquais et je sais que c'est hyper important le bijou dans ma famille, surtout chez les femmes de ma famille. Mm. Et mais les hommes aussi portent des bijoux et on porte que de l'or. Et du vrai or, quoi. Et c'est hyper important, quoi. Et ma mère a des bijoux de sa grand-mère, et ils ont toute une symbolique hyper importante. Ouais. Voilà quoi.
C'est vrai que dans une interview, je disais ça aussi par rapport à mon rapport aux bijoux homme-femme notamment, et là je me suis fait la réflexion en revenant de Guadeloupe là en février, qu'en fait aux Antilles, les hommes aussi portent énormément, enfin limite plus de bijoux que les femmes, notamment ce qu'on appelle un peu les loulous, les caïds, enfin c'est le bal, le festival des bijoux. Franchement, au carnaval, tu vois les pires caïds, quoi. Mais tu vois les pièces qui se font faire par des joaillères locales.
Bien sûr.
C'est un magnifique, c'est incroyable.
C'est fou parce que. Parce que plus du côté d'Afrique du Nord, donc là, moi, plus précisément au Maroc, parce que vu que je suis d'origine marocaine du côté de mon père, les hommes, c'est fou l'argent parce qu'en fait, vu que la religion, avec la culture qui se rajoute, c'est interdit que l'homme porte de l'or. Ils sont obligés de prendre d'autres pierres que l'or. Et donc, en fait, l'or est vraiment réservé qu'à la femme. On a cette appellation de la parure est réservée à la femme et l'homme.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ne doit pas porter ce que la femme porte, etc.
Ah, je savais pas.
Donc voilà. Okay. Donc il y a beaucoup ce côté culturel aussi. Mm. Mais la religion aussi prend aussi le dessus vu que l'or est interdit chez l'homme. Mm. Donc voilà.
Ok.
Voilà.
Bienvenue dans le JT Mag.
Voilà.
On adore, merci beaucoup.
Il n'y a pas que l'or qui ne peuvent pas porter, il y a aussi de la soie, si vous voulez savoir aussi.
Ah bon,
ouais, la soie, l'homme ne peut pas porter de la soie.
Okay.
En islam, ouais.
Ok. Ouais.
C'est pour ça que moi, dans ma marque de vêtements, je ne peux pas faire de soie. D'accord. Voilà. Parce que vu que je fais du prêt-à-porter pour hommes, moi, je n'ai pas le droit de vendre ce qui est interdit pour eux. Ce qui est logique.
C'est super cher, donc tu peux faire du satin de polyester et puis.
En fait, tout ce qui est à base de soie, je ne peux pas utiliser.
Oui, mais c'est du polyester.
Là, le polyester, oui, mais vu que j'utilise des matières naturelles 100% bio, je suis désolée, là, c'est compliqué. Oui. Donc, ouais, la soie, c'est magnifique, mais pas pour les messieurs.
Mmh. Tu sais pourquoi ?
Je sais que dans la culture, ça a beaucoup été utilisé pour vraiment pour la femme, pour surtout pour les personnes nobles et riches.
Ouais.
Mais la raison religieuse, je ne la connais pas encore. Okay. Mais je sais que en tout cas, ça fait partie des matières qui sont interdites pour l'homme.
D'accord.
Voilà. Oui, l'homme ne peut pas tout porter en islam aussi. Voilà.
Ok.
On apprend des choses. Non,
bien.
Pour en revenir à ton travail, Elia, est-ce que Est-ce que parfois ça te frustre de dire que c'est vraiment des pièces uniques parce que c'est des ressources limitées, quoi.
Ouais, qu'on en parle, oui, tout le temps. Ouais, franchement, ça c'est vraiment l'aspect.
Mais tu peux pas là, tu frustrant. C'est parce que toi tu décides ou parce que la personne décide que c'est unique.
Parce qu'en fait, il y a plusieurs options. J'aurais pu, et je peux encore aujourd'hui aller chiner des énormes lots de pièces. Par exemple, si là ce sont des dead stock de maison, dans ces cas-là, oui, mais après en deadstock de maison, bah, je tombe dans le fantasy quand même. Et c'est rare que de trouver du deadstock en argent, en or, en or. Donc en fait, j'ai souvent plutôt de base, souvent peu de pièces qui sont pareilles. Et donc ça fait des pièces uniques.
Oui, mais ça je comprends l'unicité. Non, ça, parce que c'est super agréable d'avoir une pièce unique, mais de la recopier. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
Par contre, ça je le fais souvent.
Oui, c'est ça ma question. Tu te dis pas, celle-là, elle est faite. Non, tu peux refaire.
Non, je m'inspire beaucoup des créations passées pour refaire.
Voilà, okay.
Ça complètement.
Ça, tu vois.
Mais elles sont jamais.
Si je te dis, elle est super ta bague, oui, je l'ai faite une seule fois, mais tu pourrais la refaire.
Oui, c'est ça. Mais parfois, c'est vraiment pas possible.
Parfois, c'est pas possible.
Par exemple, en 3 ans, il y a des éléments que j'ai pu avoir sous la main que je n'ai jamais revu. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, c'était vraiment rare.
C'est vraiment unique.
Ouais.
Et tu ne le savais pas au moment où il a vendu que c'était...
J'avais pas cette connaissance au début. Mmh. Mais maintenant que je l'ai, je me rends compte en fait, de la rareté de certaines pièces que je peux chiner. Et je me dis, ah oui, quand même, les gens ont vraiment des pépites sous la main. Quoi.
Est-ce que tu as un exemple en tête ?
Là, j'ai un exemple en tête. Tellement la pièce et la maille est unique, je ne l'ai toujours pas retravaillée. Parce que je me dis vraiment, ça, c'est magnifique. Et je sais que je ne vais pas en trouver... J'ai un peu du mal à m'en détacher, mais...
Cette maille, elle s'appelle comment ?
Je sais même pas. C'est un truc un peu original, hyper épais, hyper... enfin, je l'ai pas sous la main, mais voilà. Mais sinon, ça me fait me poser des questions aussi, parce que ça... Enfin, c'est le problème un peu de l'upcycling, hein, un peu du business model aussi de l'upcycling. Ouais. Donc,
C'est ça.
Comment tu te développes en boutique ? Bon, avec certaines boutiques, j'ai trouvé des solutions, mais beaucoup de boutiques... Pour elle, c'est trop compliqué, d'avoir de la pièce unique. Donc heureusement, il y a des boutiques qui sont hyper ouvertes et flexibles, mais sinon, elles comprennent quand même. Mais...
Elles ont intérêt à comprendre, c'est ton identité de marque, en fait, c'est le concept.
Oui, complètement. Mais pour moi, en tant que marque, c'est épuisant, tu vois. Quand tu as une pièce unique, ça veut dire que tu fais tout une fois. Photoproduit, photoporté, ajout e-commerce, tu te rends compte. Même quand tu fais des campagnes, tu vois, aujourd'hui, je me dis, j'aimerais bien faire des campagnes avec des plus gros budgets pour lisser les coûts sur tes quantités, tu vois, complexe.
Ouais.
Et pour moi, ça pose une vraie question, en tout cas, de la pérennité du modèle de l'upcycling. Donc, soit tu vends des pièces vraiment très, très chères, mais du milieu de gamme upcycling, c'est chronophage et c'est quand même... voilà.
Et est-ce que t'es tentée, par exemple, de créer des modèles à partir de matières vierges, tes best-sellers ?
En ce moment, oui, ça me démange énormément. De refaire... parfois, je peux, tu vois, quand tu chines des choses qui ont vraiment des belles formes et des choses vraiment originales, je sais que c'est rare. Parfois, ça me démange un peu de les faire reproduire. Il faudrait que j'en discute avec mes clients pour savoir ce qu'ils en pensent.
Si c'est quelque chose que tu as chiné, que tu as trouvé, le modèle existe déjà, du coup ça pose aussi des questions de propriété intellectuelle, de droit d'auteur, de reproduction.
Potentiellement.
Ok. Ouais, donc faudrait te. Enfin, peut-être que tu as des conseillers et conseillères en droit, je sais pas, mais ça pose plein de questions éthiques aussi à ce niveau-là.
C'est vrai.
Et je me demandais aussi. Après, tu peux développer ton propre.
Mais souvent ils sont pas signés, quoi.
Ouais.
Moi je fais pas de bijoux signés, quasiment pas. Mais en effet, ils ont quand même...
Ok. Oui, c'est quelqu'un qui l'a fait quelque part, quoi.
Ouais.
Mais ça arrive aussi... Enfin, ça arrive plus trop aujourd'hui, mais...
Mais en soi, tous les créateurs de mode font pareil. Hein. Quand ils vont chiner, c'est des vêtements vintage.
Ouais, tout le monde fait ça.
C'est la base, voilà.
À tes souhaits. Ouais, c'est
Mais oui, effectivement, ça arrive que des créateurs et créatrices...
C'est le quotidien, c'est
ça. C'est plus copier-coller. Hein.
Ouais, l'inspiration, le copier-coller...
Non, mais t'as perdu un petit détail, et puis
c'est
toi qui l'as fait.
Voilà.
Puis l'a inventé. Ça ressemble à du Top Shot. Ok, d'accord. Mais après, tu peux avoir ton petit twist et en faire tes modèles permanents.
Ouais, complètement.
Potentiellement, d'accord. C'est vrai que c'est comme dans la mode. Mais justement, contrairement à la mode, ou à la différence de la mode, ça, les tendances, elles s'accumulent. Enfin, il y en a plein en même temps. Et là, un peu plus tôt, tu parlais d'une tendance pour les bijoux régressifs qui ressemble à l'enfance.
Ouais.
Est-ce que tu as identifié d'autres tendances ?
Ouais, il y en a beaucoup, hein. Et justement, par rapport à l'upcycling, c'est un peu... par exemple, il y a tout ce qui est bijoux 3D, enfin moi j'aimerais beaucoup, tu vois, tenter des choses en 3D pour faire des volumes plus imposants et plus légers en même temps, parce que comme j'ai des matières.
De quoi, de l'impression 3D, tu veux?
Ouais, des bijoux en impression 3D. Ou,
il y a Hugo Crate qui fait ça, je crois. Ouais, ok.
J'adore Hugo Crate. Ouais.
Et bon, y a ça, cette tendance, tu sais, de faire des bijoux en fait qui sont plus des bijoux, qui sont tellement. Enfin, qui ont, on a l'impression qu'ils sont comment dire, de mondes parallèles. Voilà.
Ouais, ouais, qui viennent du métavers.
Extraterrestre un peu, des bijoux
en image de synthèse.
Et qui sont très légers, avec des. Ouais.
Ok. Ah, mais oui, ça peut être aussi un autre moyen de faire des bijoux de manière.
Upcycling, j'ai pas encore trouvé.
Mais pas en upcycling, mais en imprimant à la demande pile ton modèle permanent, tu vois. Pour éviter de tomber dans les travers de la première main qui fait des séries énormes, quoi.
Okay. Et la couleur aussi.
Des couleurs
des tendances, ouais, la couleur en bijoux.
J'ai l'impression que aussi là dans la joaillerie en ce moment et dans les bijoux, tout le monde mélange l'or et l'argent. Et c'était un peu ma phobie avant. Toi, comment tu le vis? Est-ce que t'as jamais eu de problème avec ça?
Bah moi, ça depuis mes premiers bijoux, c'est dans l'ADN de la marque. Donc pour moi, c'est même pas une tendance, ça. Tu vois, c'est limite.
Le béaba.
Ouais. C'est quelle question. C'est quoi ce truc de...
C'est mon côté réac. J'arrive pas. Vous n'avez pas de problème avec
moi, je mélange l'argent et l'or tout le temps.
D'accord. Et toi, Gassi?
Je porte très peu de bijoux.
Ah oui, c'est vrai.
Là, j'ai que ma boucle d'oreille. Je porte tout le temps, mais non, mélanger les deux, ça ne me viendrait pas trop à l'esprit comme ça.
Et tout ça.
Moi, j'en porte pas de bijoux.
Ouais.
Qu'est-ce que vous voulez?
Les lunettes,
les lunettes aussi, mais les lunettes, bientôt, je vais faire l'opération pour ne plus en porter. Donc, j'ai hâte.
Et c'est quoi le conseil que tu aurais aimé avoir avant de te lancer avec ta marque?
Il y en a beaucoup. Après, c'est un peu particulier parce qu'avant, j'étais dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, je connaissais quand même...
les galères.
Les béabas, tu vois, pour monter une boîte, monter une entreprise, les sujets de business plan, etc. Mais je n'avais pas forcément fait de lien avec le monde de la mode. Pour moi, j'étais dans un univers créatif, donc rien à voir avec l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je me rends compte que les deux sont bien liés. Quand même, et les conseils que j'aimerais avoir, c'est bien s'entourer, bosser avec, en tout cas, quand je dis les bonnes personnes, mais les personnes, les cibles que tu vises, par exemple, si tu vises, je sais pas moi, des gens de 20 ans, citadins, c'est un peu comme Sarah, bosser avec les créatifs.
Moi, c'est
citadin. Ah oui, c'est vrai.
Au passage.
Bosser avec les créatifs. Bosser avec les créatifs autour de cette personne, de cette cible.
Pas ici, tu vois.
Et surtout réunir des fonds et réunir de l'argent. Au début, moi, j'étais là, je me disais, c'est quoi cette histoire? Pourquoi tout le monde lève des fonds, etc. Et ça, c'est quand même un sujet. Ce serait le conseil, c'est de réunir de l'argent.
Et ça peut passer par des concours de mode, des bourses, des ateliers, des résidences.
Certainement.
Et des business angels, peut-être?
Ouais, plutôt.
Plutôt.
Oui, c'est ça.
Droit au but.
Ouais, parce que je pense que dans les premières années, oui, tu peux te lancer sans beaucoup d'argent, tester, etc. Mais tu te retrouves confronté à un plafond de verre quand t'as pas suffisamment de moyens, par exemple, pour te développer, pour lancer en plus grande quantité, pour industrialiser. Il te faut souvent des moyens. Et ça, je trouve que quand on te dit que tout le monde peut se lancer avec peu de moyens, c'est vrai. Mais après, au bout de 2-3 ans, grandir. Il te faut de l'argent. Et ça, il faut que les gens en aient conscience.
Et tu penses que ça, récolter de l'argent, il faut le faire au bout de combien de temps?
Moi, par exemple, avec le recul, j'aurais bien voulu le faire dès le début. Ne pas hésiter à mettre les moyens dès le début, en fait. Ne pas essayer de faire des économies de bouche de chandelle au début. Mais ça, c'est mon conseil. Peut-être que quelqu'un dira autre chose. Hein. Mais je trouve que ne pas essayer de faire d'économies de bouche de chandelle... ne pas diluer l'argent, mais savoir mettre, tu vois, des moyens, par exemple, sur un bon photographe, sur ton premier shooting, sur un bureau de presse, sur... en tout cas, en fonction de ce que tu souhaites, hein, si tu souhaites rester une marque de niche, faire du bouche-oreille.
Pour te rejoindre, c'est vrai que quand tu vois les designers à certains niveaux, mais moi, j'ai pu le constater... très les années, si vraiment en changeant d'attaché de presse, en changeant de bureau, tu vois, il y avait tout d'un coup un autre impulse. C'est Isabelle Marron, ça a été clair le jour où elle a changé, ça a été une évidence pour tout le monde.
Ah ouais.
Le consulting,
complètement.
tu vois, il y a vraiment des, voilà, on connaît les casting directeurs, les consultants.
Ah ouais. Mais oui, mais c'est tous les créatifs.
Mais c'est tous les créatifs qu'il faut tourner. En fait, c'est qui peut donner un impact avec de qui et qui est lié avec qui.
Tout à fait.
Et c'est même plus lié avec la marque en elle-même, si tu veux. C'est là que tu as raison. C'est là, après, ça reste que ça fait beaucoup de la thune, en fait. Si tu veux. C'est les moyens d'avoir ces gens-là.
Tout à fait.
Parce que
le grand showroom,
le bureau de presse qui est
la bonne équipe créative. Ça fait du monde à payer.
Et tu peux être. Parce que tu peux être limité. Une marque qui serait pas top, mais si tu as ces moyens-là,
tu vas plus vite en fait.
Tu vas aller plus vite.
Ça, c'est tu vas plus vite et plus loin.
Fait, oui, quand tu sais bien miser avec l'argent, bien sûr que le développement.
Ça, c'est à travers les expériences aussi que tu as, que tu peux te dire.
Tu l'apprends.
Quand tu commences au début, on les voit, les jeunes designers qui n'ont pas forcément une thune et qui ont de l'aide. Hein, mais c'est dur pour eux. Et quand tu as la tête dans le guidon, ça doit être compliqué de voir où mettre ton argent.
Et c'est ce que, pour en revenir, parce qu'on en reparlera tout à l'heure, j'imagine, mais c'est comme pour avoir des mannequins. Si t'es un jeune designer, t'as pas la bonne équipe de casting directeur, t'es pas suivi, les mannequins vont pas suivre. Donc on va pas parler de toi, parce que ton show, il aura pas la même qualité qu'un show, ce qu'on appelle les shows A, les shows B, C. On a un petit peu un jargon comme ça dans notre business. Et c'est vrai que si tu fais l'éclat avec une personnalité comme un front row, c'est toujours pareil.
Tout à fait.
C'est comment on va parler de ta marque, en fait. C'est
ce que tu connais. De Saint-Cernin.
Voilà, exactement.
Le devis de Saint-Cernin, c'était une jeune marque. Je l'ai fait racheter par LVMH.
Je crois pas qu'il
ait été racheté. Non, il n'a pas été racheté. Non, il est devenu directeur artistique pour une autre marque.
Le devis de Saint-Cernin, c'est pas fait du tout racheter.
Non, il a participé au concours de LVMH.
Il a participé. D'accord, ouais. Okay. Fausse information.
Après, il y a moyen que quelqu'un ait acheté des parts, mais je ne crois pas que ce soit le cas.
Et
pour
il
le
est devenu directeur artistique
de Anne
de Menester. Il a fait
son petit roman.
C'est un jeune designer qui a une cabine A, qui a les meilleurs mannequins, qui a une presse géniale. Il est monté très très rapidement.
Parce qu'il y a eu l'argent aussi. Parce que l'argent a été bien placé.
C'est pour ça que
c'est pour te rejoindre. Parce que il y a le meilleur casting directeur qu'il y a en ce moment.
C'est
DM Casting. C'est bien, Georges.
Et est-ce que tu peux nous montrer tes bijoux ou pas?
Ouais, c'est vrai, on a grave.
Oui, top shot. Résumé pour.
J'adore.
Là, en gros, donc ça, c'est des éléments qui ont été démontés d'un ancien bijou. Et chaque anneau était soudé donc à la main pour faire moyen un peu cette côte de maille. J'ai un peu une passion côte de maille en ce moment. Et tous les éléments de pampi en fait qui ont été rajoutés étaient aussi pris d'anciens bijoux et donc en argent massif, en plaqué or.
Et tu les as chinés où?
Je chine en France, un peu partout.
C'est des brocantes ou des...
À la fois maison de vente aux enchères, brocantes et particuliers.
Ça, c'est un bracelet,
un collier
magnifique.
Ouais. D'être galère à mettre, non?
C'est un peu pour un petit coup, j'avoue.
Un petit coup, un pied au cœur.
Ouais.
Et sublime.
Ouais.
Ok.
Donc ça, voilà, c'est une pièce, comme tu disais, unique. Enfin, elle n'existe pas deux fois. Alors tu pourrais la reproduire petit en changeant les...
C'est j'aime ça. Bien l'argent.
J'adore, c'est super. Ouais. Bien.
Bah. Souvent, les gens me disent ça, ils me disent...
Mais ouais.
Ah bah...
Ouais.
Là, j'aime bien en fait.
Je sais pas pour toi,
j'aime bien, mais je sais pas si j'arriverai à le porter.
Ah ouais?
En fait, je crois que j'ai ma mère, ma daronne intérieure qui m'engueule.
faut s'éloigner des carcans parentaux. Tu sais, voilà.
On appelle ça des perles baroques, non? Quand elles sont régulières, c'est ça?
Celle-ci?
Ouais.
Ça, c'est juste des perles d'eau douce. Les baroques, elles sont un peu plus ovales.
D'accord, ok.
Ouais.
Moi aussi, c'est bien.
C'est
bien. Très bien.
On l'avait passé pour d'autres jaquettes, par exemple.
Ah, waouh! Attends, d'autres jaquettes a porté ça?
Non, du coup, elle a pas porté.
Elle avait le coup trop large?
Non, mais c'est cette Fashion Week où elle a porté son truc rouge.
Ah, mais oui, c'était la barrelle, votre couture.
Bah oui.
Bah ouais, elle avait pas mis celui-là.
Je savais même pas si elle avait des bijoux. Je m'en rappelle plus.
Elle avait même pas de cils.
Non, parce que c'était des prix comme ça.
Tu aurais un conseil pour les gens qui. Pour porter des bijoux. Enfin, je sais que tu veux pas être dogmatique, mais
c'est-à-dire porter des
bijoux. Pour ceux qui ne savent pas trop en porter ou qui savent pas quoi mettre.
Genre moi, par exemple.
C'est hyper général.
Ah le choqueur, ça. Mais
dessus. Ouais, mais par-dessus, je sais pas.
En parure.
Ouais, pourquoi pas. Je sais pas.
J'ai pas mal de meufs voilées dans mes clientes.
Ah ouais?
Ouais, ouais. Qui portent des bijoux
mais,
et tout.
Des bagues,
mais après, peut-être qu'elles ont les oreilles découvertes.
Ah ouais, parce que moi, je les cache, mes oreilles. Il faut les cacher, donc pour ça. Ouais. Et j'ai plus de trous, en plus.
Ah oui.
Ce qui se fait sur les voiles, c'est les broches, les trucs comme ça.
Bah oui, il y a les broches.
Des petites
ça, c'est
perles,
vrai.
Des trucs. J'en ai déjà vu.
Mais ouais, faudrait que je vois un petit peu plus sur les bijoux, mais je sais pas.
Je dis ma fille qui me trouve pas sur Twitch, elle dit je trouve pas, comment on fait pour...
Alors, on écrit twitch.tv / mademoiselle.
Voilà, mademoiselle avec un Z.
Tu lui envoies
le lien.
T'envoies le lien, excusez-moi, hein, c'est ça.
Non, pas de soucis.
Elle a 19 ans, elle a ton âge, Anthony, mais je ne sais pas. Tu vois, c'est pour ça qu'elle
est sympa. Hein.
Il a pas 19 ans, en fait. C'est vrai. Je crois que Sarah est morte de rire.
Mais non, je me rappelle, on a fait son anniversaire là, dans l'immeuble.
Il a quel âge?
Bah, 19 ans.
Ah bon?
L'année prochaine, en fait, c'est 20 ans.
Oui, il a 19 ans.
Elle est dubitative, c'est bon.
Je suis outré. Vraiment, le cas, défendez-moi, s'il vous plaît. Personne ne me respecte.
Je vais en voir.
Tu veux que je te l'envoie, Cathy?
Non, c'est bon.
D'accord.
Moi, je sais m'y faire un peu avec...
mais oui, non, mais assez récemment, je me suis mis à porter des bijoux par-dessus mes vêtements. Et je trouve ça assez chouette. Genre, par-dessus un col roulé, ou bien par-dessus un collier que je vais mettre en double tour autour d'une poignée.
Non, mais des conseils, en vrai, c'est qu'un bijou, ben, ça te change une tenue. Si, ouais. Par exemple, t'as un peu la flemme, tu veux avoir une tenue un peu basique, avec un bijou, tu ressembles à autre chose. Mais c'est vrai pour tous les accessoires, en fait.
Après, il y a Gabriel Chenin qui disait il faut retirer un accessoire avant de quitter la maison. Tu trouves que c'est une règle bullshit ou pas?
Ouais.
Okay. J'ai pas compris,
c'était Coco qui disait Coco Chanel. Hein. Ouais,
bah, avant de sortir, comme on est toujours trop habillé, il faut retirer un accessoire avant de sortir.
On a oublié cette règle.
Pas faux.
Je trouve qu'on est jamais assez fin, tu vois. Jamais. Le trou, le pas. Non,
ouais. Les 6 morts, Maurice.
Les 6 morts, ouais. Non, mais je veux dire, ça fait tout.
Chacun fait comme il veut.
Et si tu veux, je trouve quand ma mère me disait, à l'inverse, j'ai une maman qui va avoir 72 ans, qui est très stylée, qui met toujours énormément d'accessoires et de bijoux. Et je trouve. Et c'est vrai que ça emporte, tu vois, quand tu arrives dans une pièce, parce que peu importe, justement, même avec l'âge, enfin, tu vois, si c'est pas, on regarde plus, tu vois, on va regarder des grosses boucles d'oreilles, on va un beau bracelet, tu vois, et je pense que ça habille, en fait, ça t'habille, ça te donne un peu de...
C'est vrai.
Ça,
elle est jeune, 72 ans.
Ouais, elle est très...
Christelle aussi est jeune.
Ah oui, mais j'en doute pas.
29 ans.
Elle est très, je te dis ça parce qu'elle m'a toujours appris à ça.
On peut mettre son Instagram dans le chat.
On peut mettre son Instagram parce qu'il est hallucinant et elle fait des collections.
Pourquoi
elle fait de la couture. Ma mère, elle fait de la.
Ah ouais, elle est influenceuse.
Oui.
Ah ouais, comme une influenceuse. En fait. C'est clair, elle habille des poupées, donc elle fait elle refait des trucs de designer.
Tu
me l'envoies où?
Je te l'envoie sur Instagram.
Elle habille les poupées Barbie dans toutes les calèches, un peu comme tu vois. Puis elle fait des crayons en laine.
Je te l'ai envoyé.
D'accord.
Elle est on adore.
Et c'est elle qui m'a fait.
Il y a une petite question, Elia, pour toi dans le chat. Il y a DIY Yerdua qui nous demande.
Ça va t'intéresser.
Est-ce que ça lui arrive d'utiliser des matériaux ou matières premières de la Guadeloupe, des coris par exemple?
C'est
des coquillages.
Oui, des coquillages, oui, mais les coris, c'est pas forcément de la Guadeloupe, pour info. Ouais. Mais par contre, des coquillages, oui. En fait, j'ai pas précisé que je fais souvent des drops thématiques, donc qui illustrent un thème. Et ça m'est arrivé, de faire un drop autour des coquillages que j'avais ramassés en fait en Guadeloupe.
Ok.
Voilà, c'était parmi mes premiers drops en fait.
Ok. Et le drop avait un nom?
Caruquera.
Ok.
Parce que c'est l'île aux belles eaux en Caraïbes. Voilà, et comme... voilà.
Ok. Je viens de mettre l'Instagram de la mère de Christelle dans le chat.
Oui, parce que... Voilà. Mais Sarah, ça va te plaire, parce qu'elle fait donc en tricot, tu sais, elle fait plein de créations, des sacs en... Donc c'est pas de la couture, mais c'est de la laine.
Est-ce que vous avez d'autres questions pour Elia de la marque Anissé dans le chat? C'est maintenant. Car il est possible qu'elle file dans quelques minutes, dans quelques instants.
Bah oui, où est-ce qu'on peut trouver tout ce que tu vends?
Ah bah merci.
Bah ouais, parce que ça m'intéresse.
On peut retrouver donc sur mon site internet, anissébijoux.com. En ce moment, il n'y a pas grand-chose, mais des nouveautés arrivent. Ce sont des créations uniques, c'est assez vite sold out. Et en boutique, notamment Merci, et bientôt dans un autre grand magasin à Paris.
que tu ne nommeras pas.
Bah je, on dévoile
la semaine prochaine.
Ouais, pour c'est okay. Imminent.
Mais voilà.
C'est imminent. Bon,
on n'a pas le droit à une exclue. Hein
pas d'exclue. Qu'est-ce que...
Je dis vivement le printemps qu'on découvre.
Les marchés.
Voilà. Ah, on aime
les marchés. Les bons marchés. C'est les meilleurs marchés.
On brûle les pistes. On n'aura pas d'exclus ce soir.
Voilà.
Il faut aller te suivre sur Instagram pour.
Ah oui, suivez-moi sur Instagram.
Ouais. Donc ça s'écrit A-N-I-C-E-T bijoux avec un X à la fin. Caillou bijoux. Et d'ailleurs, peut-être qu'on peut parler du nom de ta marque. Je sais que tout le monde te pose la question, mais pourquoi ? D'où vient le nom de ta marque ?
Donc le nom de la marque, juste pour l'info, vient donc Anicé, A-N-I-C-E-T, c'est le deuxième nom de mon père, donc je voulais un lien avec la Guadeloupe, comme je l'ai évoqué, qu'il fasse un pont, je trouve, entre cette double identité créole et en même temps très parisienne. Je voulais un nom mixte, comme ça s'adresse à des hommes, à des femmes. Anicé, tu sais pas si c'est féminin ou masculin. Et c'est l'anagramme de ancient, donc quand tu mets les lettres dans tous les sens. C'est ancien en anglais, donc comment on travaille des bijoux anciens. Voilà.
C'est trop cool.
J'ai une dernière question pour toi qui est un peu nébuleuse, mais t'as le temps d'y réfléchir. C'est quoi la question qu'on ne pose pas assez et à laquelle tu rêverais de répondre?
Ben moi j'aime bien parler d'autre chose que des bijoux, tu sais. Donc j'aimerais bien qu'on me pose des questions sur autre chose que des bijoux. De danse, où ça s'arrête pas qu'aux bijoux, c'est-à-dire j'aimerais bien demain faire d'autres projets autour des métaux, comme j'utilise beaucoup de métal, etc., mais d'envergure beaucoup plus grand, beaucoup plus sculpturaux, donc j'aimerais bien parler de ça aussi, en fait.
D'accord.
Voilà.
Peut-être que de
parler d'autres champs que juste réduire à des bijoux. Mais voilà.
Ok, hyper intéressant.
Ouais.
Peut-être que demain tu feras une sculpture en métal.
Peut-être bien.
Bien entourée.
Peut-être bien.
Ou par toi-même, toute seule. Et d'ailleurs, est-ce que t'as prévu ou pas de passer ton CAP de bijouterie ou c'est en cours?
Non.
Ok.
Non, j'ai pas la patience pour. Non.
Mais
préfère laisser aux gens qui savent le faire. Franchement, à un moment, faut avouer qu'on ne sait pas faire et laisser aux professionnels faire.
C'est comme ça que ton business va grandir aussi.
Ouais.
C'est un talent aussi de savoir.
C'est bien de savoir. C'est bien de savoir de quoi les professionnels me parlent, mais j'ai pas envie de passer. C'est vraiment très dur. Franchement, dans mes cours de bijoux, pour faire un carré parfait, j'ai pris 4 heures. Je me suis dit, j'avais juste une plaque. Je me suis dit, Donc, si tu te rends compte aussi du travail de tous ces joailliers, etc. Donc, je préfère vraiment laisser les gens qui savent le faire, le faire.
Et concentrer sur ton business. Ouais. Cool. Ouais. Dire comme ça, avoir des
Il y a quelqu'un qui ne me respecte pas dans le chat, DIY Gardua, qui me dit: et Anthony, depuis combien de temps as-tu 19 ans?
C'est vraiment
vrai. Et en fait, c'est ça la question.
J'avais demandé, est-ce que tu prends des cours de danse aujourd'hui encore?
Non, plus trop.
Et t'aimerais prendre des cours d'une discipline en particulier?
Ces derniers temps, je faisais plus quoi? Je faisais plus de la dancehall.
Ouais.
De la dancehall.
T'as un prof ou une prof à recommander?
Il y en a plein au studio, tu sais, studio Lax ou studio Harmonique. T'as des bons danseurs. Enfin, des bons profs, ouais.
Ok.
Mais non, je pense pas reprendre. Je préfère danser en soirée ou en boîte.
Ouais, c'est vrai que c'est cool.
C'est aussi bien que les cours.
C'est vrai que c'est cool aussi. Est-ce que vous avez une question pour Elia?
Bubble, il en a plein.
Non.
C'est Bubble, c'est ça?
C'est Bubble, ouais.
Tu lui irais bien un petit harnais? Un petit harnais argent doré.
Oui. J'ai un harnais à la Phalasdion en Corée.
Il sort bien vivant la langue.
Incroyable.
Ouais, il est fatigué là. Bichette, ce qu'elle te fait faire ta mère aussi.
Eh bien, c'était à nouveau un internet bubble pour passer l'interview d'après. Elia, est-ce que tu veux filer maintenant ou c'est...
Je vais rester un petit peu et après je vais t'attarder.
Trop cool. Ça marche. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos
questions. Merci beaucoup pour cette invitation.
C'est cool.
C'était hyper intéressant, hyper créatif aussi. J'ai adoré quand tu parlais de musicalité.
Ouais.
C'était très poétique.
Bah, c'est bien d'amener les... Oui, les choses que tu vois ailleurs. Okay. Pour mettre les mains. Mmh.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.